l'écriture. On va lire plusieurs textes dans le livre d'Ésaïe. Tout à la fin de d'Ésaïe, au chapitre 63, puis on va lire plusieurs versets jusqu'au chapitre, au début du chapitre 65. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Jusque-là, tout va bien. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvient des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux? Qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel? Qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'il bronche? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes plus, qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies, qui se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Nos crimes comme le vent. Nous emporte comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. Ne te souviens pas toujours de nos crimes. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert. Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas? Tu nous affligeras à l'excès. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je dis, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. On va arrêter là. Ce qui m'a toujours interpellé dans ce texte, bien sûr, c'est la fin du verset 19 du chapitre 63. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Je ne sais pas quelle est votre attente, mais je pense qu'il y a une attente dans l'Église du Christ Jésus aujourd'hui. Elle s'ouvre à nouveau. Quand on écoute les nouvelles du monde, semaine après semaine, mois après mois, année après année, il n'y a pas tellement d'amélioration. On pourrait dire qu'aujourd'hui, la situation mondiale se dégrade. Et souvent, quand j'entends les infos, je dis ouais, « Seigneur, allez, secoue le bazar. Fais quelque chose, qu'il se passe quelque chose. » Pendant tout un temps, Israël a oublié qu'il avait sorti d'Égypte. Jusqu'au jour où Ésaïe en parle, où le temple de Jérusalem a été détruit par les invasions du Nord. Il n'en est plus resté grand-chose. Et dans le cri, dans le cœur du prophète, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. J'aimerais lire encore un texte avec vous dans l'évangile de Jean. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Souvent, à défaut de déchirer le ciel, Dieu a envoyé sa parole. Beaucoup d'hommes l'ont reçue. On lira une ou deux histoires qui concernent ces hommes qui ont reçu la parole de Dieu. J'aimerais poursuivre en lisant un texte avec vous dans la deuxième épître aux Corinthiens, les chapitres 3, 6 à 18. On prend le temps de lire l'Écriture. C'est bien de lire cette parole de Dieu ensemble. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire a été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Est-ce que Dieu a déchiré les cieux pour chacun d'entre nous en Jésus? Est-ce que le voile qui nous séparait de Dieu a été ouvert? Quelque chose d'extraordinaire est arrivé dans ma vie il y a très très longtemps. Je crois que ça devait être un 23 décembre 1974. Des années que je n'avais pas vu ma mère, que j'avais coupé les ponts avec la famille, que j'étais dans un milieu de musiciens. Et puis, le ciel s'est déchiré. En écoutant un témoignage chrétien, quelqu'un m'a parlé à l'intérieur de moi-même. Les livres que tu lis, tu vas les brûler. Et je me suis dit, c'est qui? Et une compréhension est venue, ah, c'est Dieu. À l'époque, j'étudiais beaucoup des cosmogonies, toute une littérature ésotérique, occulte. Et tout d'un coup, je me suis dit, ouais, c'est le Dieu créateur est vivant. Et Dieu en esprit parle à l'intérieur de moi, dans son esprit. Les livres que tu lis en ce moment, tu vas les brûler. Le jour même, j'étais rencontré l'église de maison où était ma mère. Et déjà, ceux que j'avais emportés avec moi, déjà, on les a brûlés. Et les combats spirituels ont démarré le soir même, la semaine même et dans les mois qui ont suivi. Mais quelque chose s'est déchiré dans ma compréhension de Dieu. J'étais élevé dans le catholicisme. J'étais dans les églises de Pentecôte dès l'âge de 8 ans. J'ai vu des miracles, des parler en langue, des guérisons de cancer, des guérisons de démonisés, etc. Mais sans que ça touche l'intérieur. Une compréhension de Jésus qui était, oh, c'est quelqu'un d'extraordinaire, je ne lui arriverai jamais à la cheville, mais en dehors de ça. Puis tout d'un coup, le ciel s'est déchiré quelque chose. C'est sûr que ma compréhension, Dieu, Père, Fils, Esprit, ça a pris du temps, il m'a fallu quelques mois pour réaliser qui était Jésus, son œuvre pour moi. Et je crois que c'est en mai 1974, quelques mois après, ma mère m'a simplement parlé de Jésus qui a versé son sang. Pour moi, je me rappelle, j'allais acheter une baguette. C'est comme s'il y avait une lumière incroyable, des paroles que j'avais jamais, que je ne me rappelais pas avoir dites. Et quelque chose disait dans mon cœur, Hosanna, gloire au Fils de Dieu, pour aller acheter une baguette. Quelque chose, c'est... La lumière s'est faite par palier. Si tu déchirais les cieux. Après, la compréhension de Dieu, elle est venue, elle a grandi par palier, c'est sûr. Mais il y a eu un jour où quelque chose s'est déchiré. Est-ce que cette déchirure a eu lieu dans nos vies? Et est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle a fait son chemin? On dit esprit, âme et corps. Même mon corps peut vivre par le Saint-Esprit, ressentir et vivre des choses. On ressent la présence de Dieu. Très longtemps, quand j'étais à l'école d'horticulture, je me rappelle... C'était une école catholique, il y avait des croix avec le crucifix partout. Et je me rappelle une jeune femme, moi j'étais en espace vert, elle était en agriculture. Elle a regardé la croix et puis elle a fait cet homme-là sur la croix, il me fait peur. Est-ce que Jésus me fait peur ou est-ce que, au contraire, il me donne la paix, la sécurité, la joie? À l'époque, j'ai témoigné dans ce milieu. Bon, il y a eu quelques fruits. Mais tous ne se sont pas donnés à Dieu, mais Jésus peut faire peur. Si quelque chose n'est pas changé, n'est pas transformé dans nos cœurs. Adam et Ève, dans le paradis, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dieu leur dit, où es-tu ? Et il dit, j'ai eu peur, je suis nu, je me cache. Est-ce que la présence de Dieu dans nos vies est source de conflits, de difficultés, de peur, de crainte ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une source de paix, de joie, de sécurité ? Là aussi, c'est selon. Si tu déchirais les cieux. J'aimerais lire avec vous quelques textes dans la Genèse. La révélation de Dieu a été diverse dans l'Écriture. On va juste voir quelques passages de la vie de deux hommes, Abraham, Moïse, deux hommes qui ont été privilégiés. Un qui a vu des choses qui sont parfois difficiles à comprendre. D'autres qui ont vécu cette parole de Dieu très fort. Genèse au chapitre 18. On lit les versets 1 à 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'est bien, hein ? Le Dieu vivant et vrai est allé à la rencontre d'Abraham. Il leva les yeux et regarda. Voici trois hommes étaient debout devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. L'Éternel s'est approché d'Abraham. Et puis quand il regarde, il voit trois hommes. Un petit peu étrange. On lit le verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ? Est-ce que c'est ces trois hommes ? Est-ce que c'est un d'entre eux qui interpelle Abraham ? Et dans cette interpellation, Abraham, c'est l'Éternel. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ? Il y a un dialogue qui s'instaure entre Abraham et Dieu. Au verset 23, Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant ?» Le dialogue continue dans toute une intercession. Oui, enfin, c'est au verset 22. Les hommes s'éloignèrent, allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. C'est quelque chose d'étrange. Il reconnaît dans ces trois hommes que c'est l'Éternel, mais c'est lequel des trois ? On ne sait pas, c'est une rencontre un petit peu extraordinaire. Au verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna à sa demeure, ils ont dû marcher ensemble. Et puis Abraham a négocié et intercédé pour son neveu et toute la ville de Sodome. Il y a des rencontres comme ça extraordinaires dans l'Écriture. En tout cas, Abraham est sûr d'avoir rencontré Dieu. Le ciel s'est déchiré, quelqu'un est venu le rencontrer. On lit un autre texte dans Exode au chapitre 19. D'autres rencontres différentes. Exode 19, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Là aussi, il y a tout un travail d'intercession, mais Dieu parle à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Parfois, quand Dieu déchire le ciel, ça fait peur. Tout un peuple a eu peur de Dieu. La montagne du Sinaï, il y avait de la fumée, il y avait des éclairs, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et puis le peuple disait, mais cachons-nous de cette présence de Dieu. Quelque chose de Dieu qui fait trembler. Pour le peuple d'Israël, ça a été toute une aventure, tout un quelque chose de difficile dans ce rapport à Dieu. Les versets 18 à 21 dans le même chapitre. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périsse. Si tu déchirais les cieux. Là, Dieu essaye de faire quelque chose, un pas vers le peuple d'Israël. Il y a un différentiel. Il y a un différentiel. Tout un peuple peur de Dieu. Peut-être 2 millions de personnes. Il leur faut un médiateur. Il faut quelqu'un entre Dieu et ce peuple. Il vaut mieux que Moïse nous parle tranquillement, plutôt que Dieu, tu ôtes la montagne. Mais ça devait être incroyable d'entendre Dieu parler. Au travers de la nuée, au travers d'éclairs, au travers de tonnerres, au travers de trompettes qui résonnent. C'est parfois arrivé dans ma vie que la parole de Dieu retentisse dans ma vie un peu de cette manière-là. Soit pour me sortir de quelque chose, soit pour me prévenir de quelque chose. Et puis on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? 2-3 fois, le Seigneur a mis dans ma vie des interdits. Et je savais qu'il fallait que soit que je reste à ma place, que je ne bouge pas, que je fasse telle ou telle chose. Mais ça m'est arrivé dans mes premières années de vie chrétienne que la relation avec Dieu, tout d'un coup, se fasse aussi de manière... Waouh ! C'est quoi cette parole ? Comme du tonnerre ? Quand j'étais avec ce groupe de musiciens, je faisais du mime, je m'étais habillé tout en blanc avec une cape noire. Et pendant les mois où j'ai rencontré Dieu, à chaque fois que je me préparais et puis que j'allais aller sur la scène, le Saint-Esprit criait dans mon cœur, mais qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! Va-t'en! Et on tremble jusqu'au bout des pieds. Je pouvais même avoir les cheveux qui tremblent, ils étaient longs à l'époque. Ils ne se dressaient pas sur la tête, mais c'était une parole qui était de cet ordre-là pour sortir d'un milieu. Comment est-ce que l'on reçoit la parole de Dieu? Est-ce qu'il lui faut un porte-voix dans le syndicalisme? Parfois, on a une batterie ici et puis un porte-voix électrique là pour que ça porte plus loin. Et parfois, la voix de Dieu peut être aussi comme cela dans nos vies, quand c'est une parole d'avertissement, une parole pour redresser notre vie, pour... Les relations entre Dieu et Israël, ça n'a pas été facile. Hein. Encore aujourd'hui, 2500 ans de... Est-ce que c'est de l'incompréhension? Si tu déchirais le ciel. La parole déchirait le ciel. Quand Jésus est venu, quelques-uns l'ont reconnu, 12, 120, quelques disciples, quelques membres du Sanhédrin, quelques sacrificateurs, quelques personnes du peuple, mais très vite, toute la machine religieuse s'est levée contre le christianisme naissant. Jésus a scandalisé les gens de son temps. Si vous détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Comment ça, il a osé dire ça? Le temple était sacré. Ça s'est mal terminé. Exode 24, les versets 9 à 18. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et ils burent. Là, ça me va. Ça vous va aussi? C'est sympa. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait. Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron, Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. La nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Quel privilège pour cet homme d'être dans cette présence de Dieu, dans cette nuée, dans cette gloire de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu vous a été révélée avec cette gloire de Moïse? On a lu un texte dans 2 Corinthiens. On peut vivre la même chose que Moïse, différemment. Peut-être pas sur une montagne, peut-être pas avec une nuée. Mais il y a des lieux où Dieu nous attire, des lieux où Dieu nous fait monter. Et où la parole de Dieu nous parle d'une manière plus expressive, plus forte, plus directe peut-être. Est-ce que l'on recherche ces moments-là? Peu d'hommes et de femmes ont expérimenté 40 jours de jeûne et prière. On ne le fait que si on est appelé par Dieu. Je crois que le Seigneur l'a fait. Il est ressorti 40 jours de jeûne et prière du désert avec cette puissance de l'Esprit. Sadhu Sandarsi l'a fait une fois, avec des révélations extraordinaires. C'est pas pour tous. Dieu peut se révéler à nous pendant qu'on fait les courses, pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on fait à manger, pendant qu'on travaille, pendant qu'on marche. Si vous aimez marcher dans la nature, quelque chose de... L'être de Dieu peut se révéler. On lit encore... On prend le temps pour lire l'Écriture ce matin. S'il y a des textes qui peuvent vous rester. Exode 34, les versets 29 à 35. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron, tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron, tous les principaux de l'assemblée, vinrent auprès de lui, il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. Il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, voyaient que la peau de son visage rayonnait. Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Un épisode un petit peu extraordinaire. Hein. Quand Moïse entre à la tente d'assignation dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï, quelque chose se passe au niveau de son corps. Son visage est rayonnant, à tel point que c'est difficile pour ceux qui vivent en dehors de cette relation avec Dieu, c'est difficile de le voir, de le contempler. Du coup, Moïse est obligé de mettre un voile. Quelle rencontre extraordinaire. Des hommes de la Nouvelle Alliance ont vécu un petit peu la même chose. Jésus a refait tout ce périple qu'a vécu Moïse. On lit dans Matthieu au chapitre 17. C'est le récit de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Pierre en parla dans ses épîtres le jour où il a vécu quelque chose d'extraordinaire sur la montagne. Jésus a vécu cette même expérience que Moïse, mais il a été transfiguré en entier. Il est devenu quelqu'un d'extrêmement brillant, éclatant, un être de lumière. Et il nous a dit que les disciples étaient complètement déboussolés. Pierre ne savait plus trop ce qu'il disait. Il disait, on va faire une tente et puis on va faire un sit-in là, avec Moïse et Élie. Et puis finalement, ils étaient saisis d'une grande frayeur. Ça les a effrayés. Et il y a cette voix qui s'est fait entendre. Là, j'ai déchiré le ciel. Je vous révèle qui est mon fils, mon unique, bien-aimé. S'il vous parle, écoutez-le. C'est ainsi qu'elle est mon écoute du Fils, du Père, de l'Esprit. Comment est-ce que Dieu continue de se révéler dans nos vies ? J'ai toujours beaucoup aimé cette parole. Si tu déchirais les cieux, si tout d'un coup tu ouvrais un espace de révélation dans ma vie, si tout d'un coup je comprenais qui est Dieu, profondeur, Père, Fils, Esprit, toute la vie, toute l'éternité, pour comprendre, pour saisir qui est Dieu. L'Écriture dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de gloire, de grâce, de vérité, de Jésus-Christ. Une parole de réconciliation a été mise dans nos vies. Elle déchire quelque chose. C'est sûr que toutes nos expériences sont différentes. Pour la plupart de mes filles, de nos enfants, hein, quand on est dans une vie chrétienne, la révélation de Dieu, c'est un petit peu comme le rideau au théâtre qui s'ouvre au fur et à mesure. Dans d'autres vies, c'est comme une parole de tonnerre, de grondement, de trompette, d'éclair, ça l'a été dans ma vie. Dans la vie de l'apôtre Paul, il était à cheval, il a vu une grande lumière et Jésus lui a dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu persécutes mon corps? ce qui m'appartient. Qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est selon dans nos vies, chacun a une révélation différente. Mais ce qui est important, c'est que le voile se déchire complètement, de haut en bas, à gauche, à droite, et que la révélation de Dieu soit complète, soit en plénitude dans nos vies. L'Écriture nous dit dans Romains que nous étions tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Israël avait très peu d'accès à Dieu, que ce soit au travers de la tente d'assignation, au travers du temple. Il y avait des portes, il y avait des rideaux. Le prêtre ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une fois par an. Israël a eu peu de contact direct avec Dieu. Parfois, ils ont eu de la peine à saisir vraiment qui était Dieu. On lit encore dans Matthieu 27, les versets 45 à 54. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Eli !» Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, il la remplit de vinaigre. L'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Les autres disaient, « Laisse-le, voyons si Eli viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Est-ce qu'il y a eu cette déchirure ? Est-ce que le voile du péché, ce qui nous séparait de Dieu, est-ce qu'il a été déchiré ? Et est-ce qu'il y a cette reconnaissance, cette ouverture dans nos vies ? Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Plus que le Créateur, Dieu le Créateur du monde. Mais son Fils est Fils de Dieu. Parole Fetcher. Il est venu pour intervenir dans nos vies. Je vais clore en relisant ce texte de 2 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 14. « Mais ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture dans l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés, en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Je ne sais pas si Dieu veut nous conduire, s'il nous a déjà conduits, s'il veut nous conduire sur une montagne. Et avoir ce même niveau de révélation que Moïse a eu, que ses trois disciples ont eu avec cette révélation de Moïse, Élie, et cette parole, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Peut-être qu'il faut ouvrir dans nos vies une période où on continue de s'ouvrir et on dit, « Seigneur Jésus, je veux vivre plus de lumière, plus de révélation, plus de grâce, plus de paix, plus de connaissance de toi. Aide-moi à m'ouvrir, à te reconnaître. Tu es le Fils bien-aimé. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. La religion chrétienne est complètement différente des autres. Dans le judaïsme, 563 commandements, je crois. Il y en a pour toutes les heures du jour et de la nuit, pour tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Mais il faut le faire selon la loi, selon la règle. Comment est-ce que l'amour peut me sortir de la loi, de la règle? Et comment est-ce que je peux trouver une relation de liberté? Je vous laisse avec ces paroles que l'on a lues, avec ces réflexions. Et mon attente, eh bien, c'est qu'ensemble, voilà, nous puissions continuer de partager ce voile qui se déchire, cette plénitude de révélation de Jésus.